In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages pour ce 119e épisode. Et aujourd'hui, après la lecture du dernier album de Marc-Antoine Mathieu, Deep It, publié chez Delcourt, je me demande si je n'ai pas perdu tous mes repères. Je ne sais plus où est le haut et où est le bas. Je ne sais plus le grand et le petit. Quant au loin ou au près, je n'en parle même pas. Je me demande même si une des certitudes qu'il avait ancrées en moi, la bichromie, le noir et blanc, n'était finalement pas qu'un leurre. Il était nécessaire de le recevoir pour qu'il s'explique, mais j'en doute. Géniteur de Julius Corentin à Quéfac, personnage qui erre avec en permanence au-dessus de sa tête un point d'exclamation et un point d'interrogation, il m'a trop souvent perdu dans ces histoires dont on ne sait pas parfois ce qu'est le début et ce qu'est la fin, pour que je sois sûr d'obtenir des réponses claires. Bonjour, Marc-Antoine Mathieu.
Bonjour.
Dans le numéro de novembre 2016 de la revue 303, qui avait pour thème « Bande dessinée », vous êtes considéré comme un des premiers de cordée dans le format BD avec les deux autres compères de l'Anjou, Étienne Davodeau et Pascal Rabaté. Votre série « Julius Corentin à Quéfac » a fait l'objet d'une petite publication théorique et surtout, Pascal Krajewski, docteur en sciences de l'art et chercheur associé à l'Université de Lisbonne, vous a consacré une monographie impressionnante. Première question, ça fait pas un peu peur tous ces éloges ?
Oh bah non, 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 pas du tout, surtout si je suis avec Étienne Davodeau et surtout si je suis avec Étienne Davodeau et Pascal Rabaté, vous savez, les premiers de cordée, les secondes de cordée, avec eux, on se relaie, quoi. C'est clair qu'on travaille dans des domaines très différents, mais non, 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 les éloges ne font pas peur, ils sont faits d'ailleurs pour vieillir, ils sont vivants eux aussi, donc ils naissent et ils meurent aussi.
Quelle modestie, Deep It est sorti il y a à peine un mois chez Delcourt. C'est la suite de Deep Me. Est-ce que ce diptyque pourrait porter le sous-titre de Naissance et vie d'Adam ?
Oui, complètement. C'est l'histoire d'une émergence et puis d'une transmutation. Naissance, on en reparlera peut-être, mais la naissance, qu'est-ce que la naissance ? Peut-être que ça n'existe pas, la naissance. En fait, on est souvent dans le cas d'émergence, c'est-à-dire que quelque chose qui démarre, c'est soit parce que ça a toujours été avant et puis qu'à un moment donné, c'est visible, ou alors, tout d'un coup, il y a une émergence, mais qui vient également de quelque chose. Il n'y a pas de naissance ex nihilo. Et toute l'histoire d'Adam, c'est un peu ça. Ça raconte ce qui lui arrive, l'émergence de son être, son évolution, et puis comment il finira pour donner la naissance à autre chose qui lui échappera.
Alors si j'ai utilisé le terme naissance, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est vous qui l'avez créé. Parce que Adam, il existe à partir du moment où vous le décidez, donc vous en êtes.
Voilà, dans tout auteur, dans tout écrivain, tout peintre, tout artiste, il y a effectivement cette notion un peu de démiurge qui est quelque part tapis dans l'ombre. Donc de toute façon, oui. Alors ça, c'est vrai pour Adam, c'est encore plus vrai pour Julius Corentin à Quéfac, puisque lui, ce personnage-là, il sait, il a l'intuition qu'il y a un démiurge. Parce qu'il comprend petit à petit qu'il est un personnage de bande dessinée, qu'il est dans une bande dessinée, donc il doit y avoir quelqu'un qui crée cette bande dessinée. Mmh. Donc il y a une conscience pour Julius Corentin à Quéfac du démiurge. Mmh. Dans le cas d'Adam, ça va être différent. Il va le découvrir, et puis sans rien dévoiler évidemment des livres, les démiurges sont autres que peut-être un humain.
Bien sûr, ils sont bien ailleurs, les Demiurges, dans Deep It et dans Deep Me. Alors, Deep Me se terminait par la découverte que la rêverie était probablement la raison de vivre d'Adam. Et puis, il y a ce deuxième volume qui ouvre de nouvelles perspectives. Est-ce que la totalité de l'histoire existait dès le début, ou alors est-ce qu'elle s'est fabriquée progressivement à partir de l'idée de départ ?
Oui, c'est exactement ça. C'est souvent d'ailleurs le cas quand on crée des histoires et qu'on accepte la rêverie et l'errance comme terreau. Moi, je l'ai beaucoup d'écrits scientifiques, également des essais philosophiques. Tout ce qui peut, en fait, me préparer des terrains ou des paysages à visiter, des paysages à parcourir, des sentiers à explorer, en fait. Et souvent, je pars de bribes de récits, ça peut être une image, un dialogue, une vague idée, et je tire le fil. Des fois, ces fils sont très courts et ça donne des choses qui meurent très vite, qui disparaissent très vite. Puis des fois, le fil, il est plus long et il finit par créer un terrain où l'imaginaire peut s'engouffrer, peut errer et créer une histoire. Et c'est ce qui s'est passé pour Deep Me, c'est-à-dire que je pensais le berceau de Deep Me, ce serait un livre tout seul. Et en fait, à la fin de Deep Me, j'ai réalisé que j'avais simplement créé un peu un dispositif, un terrain, un paysage à la fois mental et physique qui pouvait se prolonger et dire des choses que je n'avais pas forcément prévues au départ. Un peu comme un scientifique peut faire une expérience de pensée, peut imaginer à travers une intuition quelque chose, une théorie ou une idée, et il va la mettre à l'épreuve en faisant l'expérience de la création. C'est exactement ce qui se passe chez beaucoup de créateurs et de plasticiens. Et ça a vraiment prévalu pour Deep Me et Deep It.
Enfin, moi, je l'ai senti. J'ai lu donc l'un après l'autre, avec un temps d'écart entre les deux. Et puis, je m'étais satisfait de Deep Me. Mm-hmm. Voilà, ça m'allait bien. Ouais. Ça me va encore mieux avec Deep It, hein. Ça, c'est clair, parce que ça ouvre tellement de perspectives. Cet Adam dans Deep It, il est toujours là. On le voit pas, hein. Faut être clair avec, ouais. Faut être clair. Adam, on le verra jamais du début à la fin. Lui va voir. Dans Deep It, il va voir. Et on va se rendre compte qu'en fait, il est enfermé dans une capsule, qui semble être une capsule spatiale.
C'est ça. Il est... En fait, Adam a une mission, c'est d'essayer de retrouver les endroits, des endroits qui, sur Terre, pourraient être les nouveaux... nouvel espace pour la réémergence d'un processus de vie. Donc il a une mission, mais cette mission, elle va pas se dérouler comme prévu. Donc, il y a comme ça un peu dans Deep Me une trace. Deep Me est plutôt dans la tonalité d'un polar un peu fictionnel, d'un thriller psychologique, on pourrait dire, alors que Deep It, il est plus dans le champ de la science-fiction, mais qui va se déployer plutôt dans un champ philosophique. Alors on ne voit pas Adam dans Deep It parce que effectivement il est dans cette capsule, il est encapsulé en fait dans un outil, dans une espèce de machine dont on apprendra qu'elle est pas ce qu'elle paraît être au départ. Et du coup, il est tout seul dans cette capsule. Et comme on ne le voit pas, du coup, cette capsule, c'était un des challenges de la création de Deep It, c'était de faire finalement un livre sans personnage. Alors, comment faire exister un espace, une histoire comme ça, sans personne, c'était un des défis un petit peu du récit. Et en le lisant, finalement, on s'aperçoit que souvent, les vrais personnages, ou en tous les cas, il est pas du tout impossible de faire s'incarner des personnages dans un sans les dessiner, en fait, simplement en les évoquant, en les suggérant. Là, Adam, évidemment, parle à la première personne du singulier, donc c'est un petit peu un texte off avec « je », mais on ne le verra jamais. Et ça, c'est un des intérêts, je trouve, de la bande dessinée, plus généralement des arts figuratifs, un des défis, en tous les cas, qu'il comporte, c'est de faire exister des choses qui, peut-être, sont absentes du champ visuel. Ça, c'est tout à fait intéressant comme défi.
Alors, cette désincarnation d'Adam, ça nous renvoie déjà au premier, donc à Deep Me, aux premières pages de Deep Me, qui sont noires et qui sont, pour moi, quand je l'ai lu, bouleversantes. Ce personnage qu'on ne voit pas, on ne voit que des cases noires et on n'a qu'un dialogue, enfin, qu'un monologue, puis un dialogue qui commence à se construire, c'est d'un bouleversant total. C'est-à-dire que, en fait, ce phénomène de case noire nous happe. Enfin, moi, il m'a happé. C'est-à-dire que, en fait, je suis rentré dans la case noire. Et ça m'a totalement ému. Mais quand on repasse dans Deep It, qu'on est dans ce petit vaisseau, il a une particularité, ce vaisseau. Alors, la première particularité, en fait, il est très anthropomorphe.
Oui.
Ça, c'est un peu le côté, je pense, un peu les notes d'humour qu'on retrouve un peu dans, au travers de l'album. C'était voulu, enfin, il y avait cette volonté de bille de clown, en fait. Hein. C'est un peu
oui,
une bille
au
de
départ.
Clown, hein.
Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que Adam, dans son extrême solitude, parce qu'on découvre au cours des deux récits qu'il est dans la plus grande des solitudes, on ne peut pas imaginer une entité, un être plus seul que Adam. Il nourrit un espèce de tropisme qui lui est propre. Il fait de la pareidolie, c'est-à-dire cette tendance à voir des visages un peu dans n'importe quel objet. Alors, on souffre tous un peu de pareidolie, mais des fois plus ou moins en fonction de l'état psychique dans lequel on est. Mais comme Adam est extrêmement seul et qui va nourrir de plus en plus une empathie pour l'être humain, de par sa solitude, mais aussi de par toute la mémoire qu'il a emmagasinée sur l'humain, il finit par voir des humains un peu partout. Et donc, on peut imaginer qu'à un moment donné, même sa capsule, même cette espèce de prison là, qu'il enferme, même ça, si ça se trouve, il voit de la pareidolie là-dedans. Donc, je suis un peu amusé à étendre sa propension, oui, à voir des visages, y compris jusque dans son enveloppe propre.
Mais ça a un petit effet, cette capsule, alors qui est très technologique. Hein, c'est vraiment de la haute technologie. J'ai l'impression que ça emmène le lecteur, on pourrait presque dire que vous l'entraînez presque dans une fausse piste, parce qu'on a été dans le rêve pendant un moment, et puis tout d'un coup, on se retrouve avec quelque chose de très matériel, de très identifiable pour nous, alors qu'on était dans le désincarné. Et j'ai eu presque le sentiment que vous m'entraîniez ailleurs, dans presque un autre récit, même si on y revient complètement. Il y a eu ce sentiment-là que moi j'ai vécu.
Oui, mais c'est tout à fait ça. J'avais envie d'avoir des ruptures comme ça, des ruptures presque ontologiques. C'est-à-dire qu'il y a, dans Deep Me, première partie où on est vraiment dans un espace-temps bien donné, bon, qu'Adam essaye de découvrir, qu'il essaye d'extruder, qu'il essaye de comprendre. Et au moment où il commence à comprendre l'énigme dans laquelle il est enchâssé, on va avoir une réponse. Il a une réponse et tout d'un coup, non, c'est pas du tout ça la réponse. C'est encore autre chose. Donc, il y a un premier basculement. On bascule dans une autre dimension, dans un autre espace, dans un autre monde quasiment. Donc, il y a vraiment rupture. Un peu comme quand on rêve, on est dans un monde tout à fait cohérent, avec sa propre logique, c'est parfait. Puis d'un coup, on se réveille et il y a comme ça un saut quoi, à la fois qualitatif et quantitatif. Et donc, ça se passe dans Deep Me et ça va continuer, ça va se prolonger également dans Deep It. Ça m'intéressait d'aller voir jusqu'où ça pouvait aller, cette histoire. Et c'est pour ça que dans Deep It, on est dans une autre dimension qui est très différente de celle de Deep Me. On est dans un autre monde, beaucoup plus effectivement réaliste, où là, il y a, par contre, contrairement à Deep Me, il y a beaucoup d'images, c'est très réaliste, c'est très fouillé. C'est fait pour qu'on y croie aussi. Hein. Dans l'auteur de bande dessinée, dans le créateur, il y a aussi la dimension un peu illusionniste. Et puis, une fois qu'on a adhéré à ce monde et qu'on en est certain, on sait qu'on tient l'histoire, ça y est, ah non, il y a encore un autre basculement. Et c'était...
Oui, c'est malgré tout, il me semble qu'il y a une succession de basculements. Alors, malgré tout, il y a un des basculements, alors qui n'est peut-être pas essentiel, mais qui est quand même important, c'est le surgissement de la couleur.
Oui.
Ça, c'est... Alors, moi, j'ai lu beaucoup d'albums, hein, et puis tout d'un coup, il y a de la couleur qui apparaît dans Deep It. C'est quoi ?
Alors ça, c'était très important, le surgissement de la couleur, et pas n'importe quelle couleur, c'est le rouge, donc après le blanc, le noir arrive, le rouge, mais c'est le rouge du feu. C'est d'une certaine manière, c'est le symbole de l'émergence, finalement, le rouge. Hein. C'est ce qui sort d'une plaie quand on se coupe. Et là, dans le cas de Deep Me, c'est surtout le feu. Le feu qui va être la marque d'une... Comment dire, qui va signer tout d'un coup la rentrée en sensibilité de Adam, qui jusque-là est plutôt un être, une entité qui résonne, qui essaie de comprendre où il est par la pure logique, qui a une mémoire qui lui permet d'analyser beaucoup de choses, de travailler sur l'humanité, de travailler sur le souvenir de l'humanité, de la vie en général. Donc c'est une espèce de puissance comme ça, d'intelligence extrêmement vaste et pointue. Mais ce feu qui va pouvoir admirer, ça va le renvoyer à le feu qui a été découvert et maîtrisé par l'humain il y a très 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 longtemps. Et c'est pour ça que vous parlez de basculement, c'est une bonne... Je pense que c'est bien vu. C'est-à-dire que là, il y a basculement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une forme de regard sensible naît et est en train d'émerger dans la pensée de Adam. Et c'est ça qui va amener la suite du récit et qui va amener justement une autre manière de mourir ou de naître, c'est selon.
Alors, il y a une des... Je sais pas, pour moi en tout cas, c'est une des plus belles pages de la bande dessinée que j'ai vue. Dans cette couleur, il y a une page qui est uniquement noire. Il y a juste cette petite tache de rouge qui est là, figée. Et il y a une... Enfin, pour moi, ça a une puissance d'évocation. Quand le lecteur se retrouve devant cette page, pour moi, effectivement, il y a beaucoup de choses qui résonnent derrière. Alors, il y a le tellurique, il y a tout ça qui est derrière. Et je trouve que c'est vraiment très, très impressionnant.
Oui, c'est effectivement cette petite tâche qui est la reprise du cocon de quelques pages auparavant où on apprend que tout l'encodage ADN... et contenu, en fait, finalement, dans cette petite page. Donc, du coup, c'est un peu le signe que Adam rejoint l'humanité à ce moment-là, toute l'humanité, pour des raisons qu'on découvrira évidemment plus tard dans le récit.
Alors, il y a toujours un peu d'humour, de référencement, de second degré, avec vous. Hein, on le retrouve, c'est à travers tout votre travail, mais particulièrement dans cet exercice que vous avez conduit au travers de ces deux albums. Et il y en a un tout particulièrement que moi, j'ai beaucoup apprécié. Il faut savoir qu'Adam, il fonctionne par veille. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un petit carton qui dit « veille numéro X ». Et puis, on comprend bien que là, Adam, il se met en route, il commence à penser, à monologuer, enfin bon, voilà. Et il y a une veille particulière, la veille 1492. Et cette veille, on peut supposer qu'elle n'est pas fortuite, ce serait quand même étonnant, ouais. Surtout avec vous. C'est le moment où Adam, dans son périple, en fait, il découvre l'altérité. Enfin, c'est
ouais.
Ça, hein ?
Oui, tout à fait.
Et 1492, enfin...
Ah oui, oui, bien sûr. Oui, il y a des dates comme ça qui sont des basculements, et 1492, évidemment, c'est un basculement. C'est un basculement, c'est la découverte un petit peu du nouveau monde, mais à l'échelle de la Terre. Donc, à l'époque, c'était une révolution. D'ailleurs, les gens ne s'en sont pas aperçus tout de suite. Maintenant, avec le recul, on sait que c'est une révolution, mais circonscrite à l'échelle de la planète, c'est pas trop grand-chose. Mais on peut imaginer que dans l'histoire de l'humanité, il y aura des basculements de ce type-là et beaucoup plus importants. Et là, effectivement, là, ce qui se passe avec Adam, c'est un chamboulement intérieur énorme, mais qui va peut-être être prépondérant pour l'avenir même de, non seulement de l'humanité, mais peut-être de la vie en général dans l'univers, carrément. Quoi. Je vais jusque-là, je pousse les curseurs
Loin. Les curseurs sont peut-être très loin, parce qu'en plus, en vous exprimant de cette manière-là, ça ouvre des perspectives au lecteur, parce que le lecteur qui n'a pas encore lu cet album risque d'être pris de court sur cette intervention. Avant de faire une pause musicale, comment vous avez rencontré les travaux de John Desmond Bernal, le chantre du transhumanisme? Parce que avec vous, les références, enfin, chez vous, il doit y avoir une méga bibliothèque. Hein. Et là, comment vous avez fait connaissance de ce personnage et de ses travaux?
Desmond, en fait, je l'ai complètement inventé. Simplement, j'ai inventé un personnage qui pourrait exister aujourd'hui, c'est-à-dire un genre de sbire d'Elon Musk, un peu. Enfin, tous ces gens qui sont tellement dans la technologie, qui sont tellement dans le technicisme, qu'ils en oublient certainement certaines choses essentielles. Et c'est pour ça que j'avais envie, moi, j'ai un très grand respect, une très grande admiration pour les scientifiques. Mais par contre, je serai toujours un peu circonspect sur sur ce que font les humains de ce qui a été découvert en science. Et c'est le cas, là j'ai cité Elon Musk, il y en a d'autres, il y aura toujours des Prométhées, il y a toujours des gens qui vont accepter toutes les nouvelles technologies d'une manière un petit peu béate. Et Desmond, c'était un petit peu ce cas-là. Et puis, en fait, c'est un born again, en fait. Alors, c'est marrant d'être un born again pour un dead bot. C'est ça qui est rigolo. Mais lui, il va glisser des sciences dures et voire très, très, très dures dans lesquelles il était. C'est-à-dire que c'était un statisticien, le mec, c'était un gros calé dans les données informatives. Donc, on peut imaginer qu'à notre époque, c'est le roi du pétrole, hein, parce que le nouveau roi du pétrole, aujourd'hui, c'est plus ceux qui font jaillir le pétrole, mais c'est plutôt ceux qui régulent les flux informationnels. Et lui, c'était ça. Et petit à petit, en fait, il est devenu, en tant que deadbot, il est devenu, au contraire, il a complètement viré dans les sciences molles, c'est-à-dire, c'est devenu un grand humaniste, parce qu'il a étudié la psychologie, il a étudié la philosophie, il a étudié l'histoire de l'humanité, il est complètement revenu du technicisme le plus dur qui a prévalu aussi à toute cette histoire, Deep Me et Deep Beat.
Eh bien, écoutez, je vous propose de faire une pause musicale. I don't know. écouté Oda, qui a chanté Hideka. Ces noms font très code informatique, mais c'est un jeune groupe magnifique qui est en résidence actuellement au Shabada et je pense que le travail qu'ils font est vraiment intéressant. Vous écoutez Entre les pages et vous êtes sur Radio G. Et aujourd'hui, je reçois Marc-Antoine Mathieu pour l'apparition de Deep It, la suite de Deep Me, aux éditions Delcourt. Alors, pour vous, la BD ne se limite pas à un scénario, à une narration, à un exercice graphique. C'est beaucoup plus que ça, en fait. La BD, c'est bien plus que ça pour vous. Ça ne se limite pas. L'objet lui-même fait partie, en fait, de la BD. Et si je dis ça, je vais prendre un exemple. C'est dans Deep Me. Dans Deep Me, vous faites... quand je dis que vous avez fait naître... Adam, vous avez des pages où la case va surgir du bord de la feuille, c'est-à-dire que il y a pas de marge là. C'est la case, en fait, ça vient de l'extérieur. En fait, l'album, il commence ailleurs que dans l'album.
Oui, complètement. Oui, jouer avec le médium, jouer avec le support, ça, c'est des choses que tôt ou tard, on peut aborder quand on est un plasticien. C'est vrai que le fait que je travaille également un peu dans la scénographie, dans l'espace réel, dans l'espace 3D, fait que c'est des questions qui me viennent un petit peu, on va dire, naturellement. Mais là, c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire en sorte que les cases de la bande dessinée, que le gaufrier de la bande dessinée puisse à un moment donné... devenir autre chose, qu'il puisse y avoir une forme de liberté pour se l'approprier. Voilà, il y a Lou Bapeau qui fait ça assez bien aussi, l'ouvroir de bande dessinée potentielle. Ils le font aussi, il y a des recherches aussi menées dans ce sens-là.
C'est-à-dire que là, c'est la contrainte que se fixe donc dans ce regroupement de dessinateurs, il se fixe des contraintes et il faut travailler la contrainte. En fait, faut subir la contrainte.
Voilà, pour mieux s'en échapper, pour mieux s'en libérer. Alors, c'est un exercice très sain, ce qui permet, en fait, de sortir des biais ou des habitudes qu'on peut avoir quand on crée. Le fait de se fixer des contraintes forcément amène son lot de liberté qu'on n'avait pas prévu. Et encore une fois, on reboote sur le principe de l'errance dont on parlait tout à l'heure.
Parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez vous. Pour les gens qui n'ont pas lu, je leur recommande de lire 3 secondes. Généralement, on devient fou à la fin de 3 secondes. Enfin, je ne sais pas si c'était votre intention, mais quand on a parcouru tout 3 secondes, c'est une démarche complètement... c'est la contrainte, je pense, que vous étiez donnée, c'est-à-dire travailler sur le reflet et la vitesse de la lumière et le reflet, et les cases vont se succéder... Et ça va être le reflet qui va nous emmener d'un endroit à l'autre. C'est là aussi, enfin, dans ce cadre-là, vous explorez la contrainte jusqu'au bout, quoi.
Oui, c'est ça. Et dans cette contrainte surgit des choses que j'avais pas prévues. C'est-à-dire que cette idée-là, en plus dans 3 secondes, je m'étais dit, bon, puisque ça va quand même être compliqué un peu à faire, c'est-à-dire qu'on est plus dans ces cas-là, dans le travail d'un architecte ou d'un bureau d'études que vraiment d'un créateur plasticien. Donc je m'étais dit, pour me récompenser de cet effort du bureau d'études un peu sec de réalisation, je vais improviser l'histoire au fur et à mesure. Donc du coup, je suis passé par des paysages, des endroits, des surprises même formelles auxquelles je ne m'attendais pas. Et ça, c'est un peu la récompense aussi quand on crée des univers... qu'on ne maîtrise pas, en fait. Ça nous fait créer des choses vraiment imprévues. Et ça c'est bien, quoi.
Alors, dans ce diptyque, Deep Me, Deep It, vous retravaillez cette question que vous avez déjà travaillée dans plusieurs de vos autres albums, il me semble. c'est la question de l'origine. C'est-à-dire que dans 3 secondes, ben, on est bien à l'origine. C'est quoi qui est au début ? Et il faut résoudre l'énigme, mais il y a malgré tout un début. Dans Otto, c'est encore plus impressionnant. Otto, c'est l'histoire de ce personnage qui va trouver la malle contenant les 7 premières années de sa vie et qui va revivre les 7 premières années de sa vie en remontant dans le temps. Cette question des origines, ça dit quoi chez vous, ça, cette constante qu'on retrouve au travers de vos albums ?
Ça, c'est pas évident à le définir parce qu'il y a, bon, il y a une part forcément de flou, une part d'insondable dans ce qu'on essaie d'extruder de nous-mêmes. Mais le premier livre, d'ailleurs, jusqu'en temps exact, s'appelle L'Origine. Donc forcément, non, mais bon, je pense que quand on est amené comme ça à la rêverie, plus ou moins philosophique ou même poétique, forcément, la notion de début et de fin se présente tôt ou tard, quoi. Et oui, mes lectures, mes rêveries m'ont toujours amené à réfléchir sur cette histoire. Effectivement, qu'est-ce que c'est que le Big Bang ? Est-ce que c'est pas quelque chose finalement qui était une espèce de stase duquel a émergé à un moment donné un début, mais un début entre guillemets. On a du mal à cette histoire de début. Est forcément un peu foireuse, puisque s'il y a un début, bah oui, alors qu'est-ce qu'il y avait avant le début, voilà. Donc, etc. Bah,
vous y revenez beaucoup dans le diptyque, vous y revenez beaucoup, la causalité, il n'y a pas d'effet sans cause, point barre, voilà. Et il n'y a pas d'effet sans cause.
Voilà,
c'est tout.
Ça.
En
voilà.
Fait, ça ne sert à rien d'aller plus loin que ça, il n'y a pas d'effet sans cause.
Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai toujours un petit peu... Ça fait partie un peu de mes idées un peu obsessionnelles, c'est-à-dire ce principe de causalité qui fait que malgré tout, on a beau essayer de s'en échapper, on a beau essayer de dire mais non, il y a quand même du libre arbitre, des choses qui peuvent quand même émerger de toute pièce. Quand on réfléchit vraiment sur les faits, enfin sur ce qui se passe, sur le déroulement du temps, il y a bien un enchaînement de cause à effet qui est d'une certaine manière inexorable. Donc, ça a à voir un peu avec, effectivement, cette notion de libre-arbitre, ce qui veut pas dire que l'individu n'est pas responsable, ce qui ne veut pas dire que le vivant n'est pas responsable de ce qui se passe. Mais, malgré tout, il est quand même enchâssé dans un continuum qui, pour une très, très grande part, même, à mon avis, en totalité, lui échappe. Parce que trop de données, trop de paramètres, en fait, trop de fading pour qu'on puisse vraiment agir d'une manière vraiment prépondérante sur le déroulement des choses. Alors c'est très bouddhiste hein, comme vision.
Oui. Mais bon. Oui, mais c'est l'exemplarité de ce diptyque, de ce deep midipit, c'est justement ça. Adam est dessaisi de son libre arbitre, mais pourtant il est d'une certaine manière il est cause et effet, en fait, hein, tout le temps. Et la conclusion de l'histoire est extraordinaire. On se croirait dans 2001, l'Odyssée de l'espace, presque. Hein. C'est une ouverture soudaine qui, pour le lecteur, est vraiment quelque chose... Enfin, pour moi, ça a été assez foudroyant. On a parlé de l'Ubapo. Est-ce que cette question... La question, par exemple, dans Deep Me, du noir et de l'importance du noir, en tout cas tout au début du volume. Est-ce que c'était un parti pris, cette radicalité, ou le parti pris, il est devenu... en fait, il était nécessité.
Oui, complètement. C'est-à-dire que l'idée, c'était de, au départ... ce postulat de se dire une personne se retrouve complètement dans le noir dans un état très particulier qui s'appelle l'Octin syndrome.
Attention, vous l'appelez presque autrement, vous l'appelez le Adam Got His Gun syndrome.
Ah oui, c'est ça. Oui, parce que ça démarre comme Johnny Got His Gun, hein, le film. Voilà.
Et le bouquin enfin, de Dalton Trumbo.
Dalton Trumbo, tout à fait.
Ouais.
Et donc, ça commence vraiment comme ça. Sauf que c'est plus c'est plus qu'un coma, c'est plus qu'un locked-in syndrome. On l'apprendra effectivement au cours. Mais j'avais envie de mettre le lecteur dans la position même d'Adam qui est complètement paralysé, qui est complètement impuissant, qui n'a plus de mémoire, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas d'où il vient. Il entend juste des voix autour de lui. Et sinon, il est plongé dans le noir, dans l'incapacité absolue de faire quoi que ce soit Et donc, on revient à cette idée effectivement d'impuissance face à un destin, peut-être. C'est peut-être là que j'ai incarné cette impossibilité en fait, d'agir sur les événements, peut-être. Hein, ce n'est pas impossible. J'ai formellement là, je l'ai formulé peut-être effectivement dans le début d'Hypmi. Mais à force de courage et de persévérance, il va réussir quand même à découvrir des choses. Et parce que justement, il est contraint. Parce qu'il est contraint par une forme de cécité totale, son ouïe va se développer plus qu'un humain normal. Et il va réussir à entendre des choses que normalement, un humain ne pourrait pas entendre.
Et il a une ouïe qui devient de plus en plus fine. Hein.
C'est ça. Et du coup, il va entendre des choses qu'il ne devrait pas entendre. Et ça va lui mettre justement... la puce à l'oreille, pour faire un bon jeu de mots, la puce à l'oreille qui va lui dire que non, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se trame, on essaye de manipuler, voilà, et c'est le début un peu d'un récit, alors là, plus sur le mode un peu du polar pur, et voilà. Encore une fois, d'une contrainte va naître une forme de liberté, à la fois pour Adam, et en même temps pour moi, créateur, mais aussi pour le lecteur. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que bon, des cases noires mises les unes à la suite des autres, c'est comme ça dit, comme ça au micro, on n'a pas envie d'y croire. Mais en même temps, et moi aussi d'ailleurs au départ, j'y croyais pas trop. Et en fait, en les faisant, en les réalisant et en les lisant, j'ai compris que si, c'était possible et qu'il se passait quelque chose là d'intéressant. Qui est peut-être aussi un manifeste possible pour la bande dessinée, qui est de dire, mais une bande dessinée peut aussi générer peut-être des images abstraites. Il n'y a pas de raison, la bande dessinée peut s'extirper du carcan figuratif dans lequel elle est. Parce que ce n'est pas qu'un carcan d'un gaufrier ou de cases mis côte à côte, c'est aussi la bande dessinée est peut-être trop encore prisonnière d'un art qui est de l'ordre du figuratif. C'est en train de changer. Hein. Toute une génération d'auteurs qui vont visiter d'autres formes graphiques, qui vont parfois jusqu'à la limite de l'abstraction, et ça, c'est heureux.
Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que pour moi, ça ne pourrait pas être un roman. C'est-à-dire qu'à la limite, puisqu'il n'y a que des cases noires, pourquoi pas faire un roman ? Et ça ne pourrait pas être un roman. Enfin, je ne lirais pas un roman comme ça. Ce n'est lisible que parce que c'est sous cette forme-là, c'est-à-dire que parce qu'il y a ces cases noires qui nous mettent dans un espace, enfin, qui, effectivement, ça fabrique autre chose. C'est-à-dire qu'on est dans la méta-BD presque, on est transporté ailleurs. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à lire ça parce que je déteste le mot expérience, mais c'est une aventure de lecture qui, à mes yeux, est magique. Vous avez parlé tout à l'heure de Loubapo, mais vous êtes aussi impliqué dans une structure qui s'appelle Lucilum. Lucilum, c'est quoi en fait, Lucilum ?
Alors, Lucilum, c'est essentiellement quatre personnes. On est quatre. Isabelle, notre administratrice, et puis Philippe Leduc, moi-même et Elisa Fache. La particularité de Lucilum, c'est qu'on est trois plasticiens. On est scénographe, on est graphiste à la base, également scénographe. Hein, on a travaillé sur les Perrières à De La Fontaine, sur le mystère des Falins. On a fait l'Aigrette à la Poissonnière. On a fait le Port du Ralliement, par exemple, dans les années 2000, avec les Accroche-Cœurs. On a travaillé beaucoup avec Jeux Bitume pour scénographier, mettre en scène l'espace urbain à Angers. Mais on a fait, on a un petit peu comme ça fait. Environ peut-être 200 mises en scène, à la fois de scénographie, mais aussi des féeries dans des paysages très différents. Et puis par ailleurs, on est aussi, on nourrit personnellement chacun une autre manière de créer. Hein. Philippe Leduc fait des portraits en ce moment, il expose en ce moment à Jugnet-sur-Loire. Elisa Fache est plasticienne, elle fait des tableaux qui manient, oui.
Assez déroutant.
Très, très.
Très déroutant, mais ouais. c'est vraiment superbe ce qu'elle fait.
Ouais, ouais,
la dernière expo qu'elle a fait à la Tour Saint-Aubin, c'est
tout
ça
à fait,
Tour Saint-Aubin, c'était... moi, j'ai trouvé ça éblouissant,
tout
simplement.
Oui, il travaille sur... qui fait ressortir à la fois l'ancestral à travers des œuvres qui vont visiter du côté du sacré, mais qui touchent aussi l'individu vraiment en propre. Mmh. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle fait un peu de grand écart entre le singulier, également le particulier, et puis peut-être le grand tout. Et puis voilà, donc on est... Alors voilà, donc on travaille, on est un petit peu... Notre temps est partagé à la fois entre un travail très collectif, où on s'entend sur à la fois des thématiques, mais sur des terrains de rêverie, à trois personnes, et puis on se retranche parfois chez nous pour créer nos propres, consolider, on va dire, et visiter nos propres imaginaires.
Ça vous ressort, ce, de vous trouver dans un autre espace que celui uniquement de votre atelier, de BD, ça renouvelle votre imaginaire ?
Oui, forcément. Il y a forcément un dialogue qui se fait à mon insu, d'ailleurs, sans doute, je ne l'analyse pas toujours, mais c'est logique, partageant mon temps entre deux activités quand même aussi distinctes, c'est-à-dire le côté un peu presque enlumineur de l'auteur de bande dessinée, très un peu secret, travaillant comme ça chez lui sur des trucs qu'il comprend d'ailleurs pas forcément toujours. Et puis, de l'autre côté, à l'autre pôle, travailler avec des gens, être dans la communication quasiment permanente, remettre en cause ses propres idées, les idées des autres, enfin être toujours dans les discussions. Vous voyez, il y a des méthodes de travail, des paysages de recherche qui sont vraiment très différents. Mais au final, le but du jeu, c'est quand même d'être au plus juste de ce qui doit être dit de nous-mêmes et à un moment donné.
Alors, vous êtes quelqu'un de fidèle parce que vous avez une maison d'édition, qui est la maison d'édition Delcourt. Alors, vous avez d'autres productions dans d'autres maisons d'édition, mais Delcourt, c'est vraiment votre maison. Moi, je me demande toujours ce que Grégoire Seguin a pensé quand vous êtes arrivé avec votre projet de Deep Me. Je me suis dit, mais ce type, il n'est pas parti en courant. Enfin, il a...
parce que Grégoire Seguin et Guy Delcourt aussi, d'ailleurs, hein, sont des releveurs de défis aussi. Mmh. Hein. Quand on est éditeur, de toute façon, par moment, il faut accepter qu'il y a du risque, quoi. Et c'est vrai que sur des albums comme ça, il peut y avoir un risque. Bon, cela dit, ça fait maintenant des années qu'on se connaît, qu'on se voit. Justement, quand il y a des bémols, parce que ça arrive, hein, ils le disent et c'est bien. Mmh. Mais non, franchement, je suis fidèle parce qu'eux-mêmes ont confiance. Donc, c'est une relation de confiance qui maintenant dure depuis quasiment dû en personne, c'était 2009, donc vous voyez, ça fait 15 ans que je travaille avec Grégoire Seguin, puisqu'il m'avait accompagné sur le premier, c'était dû en personne.
Dieu en personne, dont je recommande la lecture aussi. La cause, les effets, Dieu en personne, il faut lire ça. Vous êtes aussi fidèle, parce que quand on lit généralement un livre, il faut lire du début à la fin, jusqu'au remerciement. Et on voit souvent les mêmes noms apparaître au niveau des remerciements. Vous semblez avoir une tribu là. C'est bien d'avoir une base comme ça, un petit réseau comme ça, on sait d'où on part, on sait d'où on parle.
Oui, c'est important. C'est vrai que les amis, les proches que j'appelle les primo-lecteurs, c'est-à-dire mes enfants, ma compagne, bien sûr les gens de chez Delcourt et ceux qui fabriquent aussi.
Et l'incontournable Dom Perron ?
Oui, Dom Perron, qui est à ses heures écrivain et qui fait lui aussi des choses très pointues, vous en savez quelque chose. Un jour d'ailleurs, ça serait intéressant que vous l'invitiez, parce que quelqu'un qui a absolument rien lâché sur ce qui doit être dit, de ce qu'on est et de ce qu'on veut faire et de là où on veut aller visiter le monde. Oui, ça, c'est des voix, c'est des avis, c'est des regards sur notre travail qui sont très, très importants, qui sont même fondateurs, qui nous suivent tout au long de notre vie de
Moi, je vais vous remercier, Marc-Antoine Mathieu, de vous être déplacé jusqu'au studio de Radio G. C'est un vrai bonheur de vous avoir rencontré, d'avoir partagé avec vous. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je rappelle les titres de la série Deep Me et Deep It. Ils sont parus aux éditions Delcourt. Et vraiment, plongez-vous dedans, vous en ressortirez transformé. Et on va faire une nouvelle pause musicale.
Oui. Et merci, hein, merci beaucoup à Radio G. Hein, que longue vie à Radio G. la première radio et longue vie à elle. Oui.
Merci.
Isa boa mulata, Isa boa, Isa boa,
Isa boa,
Isa boa mulata, Isa boa, Isa boa.
Estou lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando do amor.
Isa boa mulata, Isa boa. Isa boa mulata, Isa boa. Isa boa, tô Isa boa. Isa boa mulata, Isa boa. Isa boa, tô Isa boa.
Lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando doutor.
Isa boa mulata, Isa boa.
Os filhos que é meu,
que é meu e que é dela. Vem benta a goela de tanto chorar. Isa boa mulata, Isa boa, Isa boa,
tô Isa boa. Estou lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando doutor.
Isa boa mulata.
Vous venez d'entendre Aurélien Merle qui a chanté Isa boa. Avec ce classique de la chanson brésilienne, c'est ma manière d'être raccord avec cette période de carnaval et celui de Rio. En particulier, vous êtes toujours sur Radio G, fréquence 101.5. Vous écoutez toujours Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Et c'est l'heure de la chronique de Julien pour nous parler encore du western, mais écrit par un Français cette fois-ci. Et outrage suprême, c'est de western spaghetti dont il s'agit. À toi, Julien.
Pour une poignée de western. Howdy, Luc. Aujourd'hui, je vous propose une double bifurcation. Tout d'abord, parce que nous allons explorer un pan du western spaghetti. Et ensuite, parce que nous franchissons pour la première fois, non pas le Pecos, ce fleuve typique des États-Unis qui a longtemps délimité la frontière entre la civilisation et l'aventure, où la loi du plus fort était toujours la meilleure. Non, non pas le Pecos, mais l'Atlantique pour nous retrouver en Europe. Et pour affronter le western spaghetti, j'ai choisi non pas au premier abord un livre, mais un film. Et quel film ? Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, avec dans l'ordre Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Eli Wallach. Les amateurs de la collection Série Noire chez Gallimard se rappelleront peut-être de l'existence d'un volume de Joe Milland intitulé Le Bon, la Brute et le Truand. Ils ne savent peut-être pas en revanche qu'il s'agit d'une assez mauvaise novélisation, cet art qui consiste à adapter en roman un film. Joe Milland en avait gardé l'action et surtout les dialogues, mais l'ensemble est somme toute sans saveur et il lui manque entre autres la musique d'Ennio Morricone et les séquences où la caméra s'attarde longtemps sur les visages en gros plan. Pour en finir avec Joe Milland, je rajouterai qu'il s'est fait spécialiste à l'époque des novélisations, puisque toujours dans la série noire, on a eu le droit, toujours dans le genre western, à, et pour quelques dollars de plus, au charognard et, dans les films d'action, au canardeur. Les éditions Gallimard n'ayant pas poussé le vice à éditer Macho Callahan, Un homme fait la loi, Les collines de la terreur ou encore Les cordes de la potence. Allez plutôt voir les films. Mais revenons à ce qui manquait principalement à cette adaptation fidèle, les gros plans sur des visages rapprochés. Eh bien, Patrick Châtelier est un écrivain qui a tout compris à l'art de Sergio Leone. Avec « Pas le bon, pas le truand » paru chez Vertical, il nous propose une focale sur une scène culte du film et nous offre tout un discours introspectif à un moment où le silence règne avant une explosion de violence. Citation du roman, ouvrez les guillemets. Le silence n'est pas fait pour les humains. La divinité ou la nature, selon l'idée que tu t'en fabriques, les a doués de paroles uniquement pour le remplir. Fermez les guillemets. Eh bien, ce n'est pas l'idée que s'en fait Sergio Leone et encore moins Patrick Châtelier. Le bon, la brute et le truand. Beaucoup l'ont vu. Beaucoup connaissent le thème principal musical d'Ennio Morricone, j'en ai déjà parlé. Pas le bon, pas le truand s'arrête sur la visite de la brute, certaine ça, au butler. La brute arrive à cheval dans un nuage de poussière sous l'œil d'un enfant butler qui manœuvre un âne autour d'une noria. Vous savez, ces puits mexicains ou espagnols ou arabes. S'ensuit une scène où ils se retrouvent tous à table. Alors, Patrick Châtelier a juste changé le menu, troquant les fameux beans pour des spaghettis, mais là, rien que du normal, puisqu'on est dans un western du genre. Tour à tour, chacun des protagonistes brise le silence ambiant de ses propres réflexions intérieures. Les démons ressurgissent. Qu'importe la fin, puisque beaucoup la connaissent. C'est un peu comme Fort Alamo. Les protagonistes aussi. La brute veut une information en même temps qu'elle ne veut pas de témoins. Dans cet hommage à Sergio Leone, Patrick Châtelier offre un récit immobile ou presque. Minutieusement, il décrit cette lenteur qui grossit les moindres gestes et vibrations et donne une place, une densité à notre rôle de voyeur, voyeur immobile comme les quatre autres en attente de voir. Obnubilés par la symétrie, les chapitres sont répartis de part et d'autre d'un chapitre central imposant. L'auteur multiplie les effets de style au sein même du texte. Œil du principe, idiot regarde, principe de l'œil, regarde-t-il, accentuant ainsi les plans du film. Le lecteur passe d'un regard à un autre à toute vitesse, observe, guette le moindre changement pressenti. Rien ne bouge ou presque, tension narrative à son plus haut. Amateur de western à 100 à l'heure, fan d'Elmore Leonard, attendez-vous à subir un très long moment de tension, votre front luisant de sueur, tandis qu'une mouche vient vous titiller l'épiderme. Vous comprendrez alors que Patrick Châtelier rend un vibrant hommage au genre, en changeant cette focale, mais qui nous fait entrer à jamais, nous aussi, dans les livres d'histoire.
Merci. Merci Julien. Depuis ce début de saison, tu montres que ce genre bien sous-évalué mérite toute notre attention. Et comme le disait notre précédente invitée Nathalie Prince, il n'y a pas de petite ou de grande littérature. Vous aimez cette émission ? Radio G vous interpelle. Dans le cadre de la Semaine des radios associatives organisée par la FRAP, la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, à laquelle Radio G est adhérente, nous ouvrons nos portes au public ce dimanche 18 février de 10h à 17h. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Mardi prochain, le Bouillon, ce sera avec Jean-Philippe Toussaint et ce sera à l'Université catholique. Au cours de l'édition de l'émission, pardon, vous avez entendu Oda qui a chanté IDECA, Oda qui sera programmée dans le cadre du Z Tour des bibliothèques. Et vous avez entendu Aurélien Merle qui a chanté Nceboa. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 28 février à 17h. Je recevrai Sophie Renaudin, responsable des collections patrimoniales, et Marc-Édouard Gauthier, directeur des bibliothèques municipales d'Angers, pour parler de la très belle exposition installée au château d'Angers, du manuscrit à la BD, dans laquelle on voit des planches de Marc-Antoine Mathieu. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI, puis votre magazine Topette animé par Pierre Benoît et toute sa petite bande. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.